Hélène Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Un plan dévoilé au-dessus du Vieux-Port, Marseille. Emmanuel Macron déroule en ce moment le plan préparé pour la deuxième ville de France. Il est venu, dit-il, prendre des engagements. Sécurité, sociale, sanitaire, triple urgence, dit-il encore. Nous allons faire le tour des premières annonces. La rentrée scolaire pour 12 millions d'élèves et une rentrée piquée. Certains lycéens volontaires ont pu se faire vacciner dès aujourd'hui. Reportage dans les Landes. Dans l'actualité encore, l'Afghanistan et ce témoignage rare. La première femme élue maire dans le pays, réfugiée aujourd'hui en Allemagne, a accepté de répondre à France Inter. Après le féminicide de Mérignac, près de Bordeaux, le policier qui avait pris la plainte de la victime menaçait d'un an d'exclusion ferme. Et puis la Mostra de Venise, le cinéma et le grand retour de Jane Campion pour un western crépusculaire. Au téléphone sonne, Fabienne.
Eh bien, ce soir, on est au chevet des écosystèmes et des espèces en voie d'extinction à la veille de l'ouverture du Congrès mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Alors, vous allez me dire encore un colloque, mais qu'est-ce qui va en sortir? Eh bien, peut-être que les feux, les inondations, les chaleurs de l'été, tout ce qui a été détruit irrémédiablement, tout cela nous aide peut-être à y réfléchir mieux. Faut-il créer, imposer des zones protégées partout, protéger la nature jusqu'où? Contre qui? Quels engagements devons-nous prendre? Ça se passe bien sûr au 01 45 24 7000.
France Inter. C'est du palais du Pharaon qui domine Marseille qu'Emmanuel Macron est donc en train de présenter Marseille en grand, le plan pour la deuxième ville de France. Le président, brièvement interrompu tout à l'heure par la pluie, qui a un message.
J'assume complètement que le devoir de la nation est d'être aux côtés des Marseillaises et des Marseillais. Parce que décider que ce serait une ville comme les autres, ce serait acter qu'elle va continuer à vivre au milieu de ses difficultés, les subir, et ne pas réussir pour elle-même, pour tout le territoire et pour tout le pays. C'est acter qu'elle ne pourra pas jouer le rôle qu'elle doit jouer dans cette Méditerranée à laquelle je crois profondément. Et donc, je pense qu'aider aujourd'hui Marseille à réussir, ça n'est d'abord pas lui faire l'aumône. C'est aider à déclencher quelque chose qui est là, mais c'est bon pour le pays tout entier.
Et pour suivre ce discours en direct de Marseille, Simon le Baron. Simon, vous êtes sur place, le chef de l'État dit vouloir prendre des engagements avec cette triple urgence sécuritaire, sociale, sanitaire, mais il n'est pas venu faire un chèque.
Non, parce qu'il le sait, Emmanuel Macron, les Marseillais en ont vu passer des promesses, des milliards ces 20 dernières années avec les résultats que l'on connaît. Alors il ne veut pas se poser, surtout pas en faiseur de miracles. Il n'y a plus de thaumaturge, dit le président. Mais il veut afficher ce volontarisme. Quand on veut, on peut. Ce volontarisme dont il a fait sa marque de fabrique. Alors il met une grosse pression sur les élus locaux. Pendant qu'on investit, j'attends de vous, monsieur le maire, il regarde Benoît Payan au premier rang, j'attends de vous que vous réformiez, et il fustige les petits arrangements, les faiblesses. Le président n'est donc pas venu faire l'aumône ici à Marseille, il le dit, il est venu dire à ses élus d'enfin travailler ensemble, la mairie de gauche, la métropole de droite. Voilà le message du chef de l'État aujourd'hui à Marseille.
Alors son discours se poursuit, hein. Il est toujours en cours et on attend quand même les grosses annonces.
Pas d'annonce spectaculaire pour l'instant, en tout cas dans ce discours qui dure depuis plus de 45 minutes maintenant. Pas d'annonce spectaculaire à attendre en fait, Hélène. Le président rappelle cette arrivée accélérée de 200 policiers l'année prochaine. Il rappelle l'objectif de réhabilitation de 10 000 logements, 50 millions d'euros supplémentaires également pour le pôle mère-enfant de Latimone, le grand hôpital de la ville, 14 écoles à rénover d'urgence, un nouveau modèle de gestion de ces établissements scolaires aussi pour leur donner plus d'autonomie qui sera expérimenté à partir de la rentrée 2023 dans 50 écoles. Un discours avant tout technique. Le président expose une méthode, il déroule les sujets éducation, sécurité, lutte contre les inégalités. Cette méthode, ces sujets qui rythmeront sa campagne vers sa réélection en 2022, campagne qui commence, disons-le, officieusement aujourd'hui et lors de cette visite de 3 jours dans la deuxième ville de France.
Simon Le Baron en direct de Marseille. L'urgence ne suffit pas à relever le défi dans la ville. C'est ce qu'a dit aussi tout à l'heure Emmanuel Emmanuel Macron, on l'a compris, il appelle à un travail collectif. On suivra avec vous dans nos prochaines éditions, Simon, la totalité des annonces qu'est en train de faire Emmanuel Macron en direct de Marseille. Faites confiance à la ville, c'était aussi le message tout à l'heure du maire Benoît Payan, juste avant les annonces. Emmanuel Macron qui est aussi revenu un peu plus tôt dans la journée sur la polémique après les popos de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, qui avait insinué le week-end dernier que l'allocation de rentrée scolaire servait aussi à acheter des écrans plats. Il ne faut pas stigmatiser, dit aujourd'hui le chef de l'État, d'accord tout de même avec l'idée que les parlementaires doivent vérifier que l'argent va bien au bon endroit. La députée MoDem, Perrine Goulet notamment, veut transformer l'allocation en bon, à l'image des tickets restaurants ou des chèques vacances, pour mieux contrôler son utilisation.
Ce que j'ai préconisé, c'est une réforme sous forme de coupons. Ça serait par exemple comme les chèques restaurant, où on a un chéquier avec des chèques de différents montants. Et quand on passe en caisse pour acheter les fournitures ou les vêtements, au lieu de sortir sa carte bleue, on sort le chèque scolaire. Donc pour les personnes qui l'utilisent de manière correcte, il n'y a aucun changement, sauf qu'au lieu de sortir leur carte bleue, ils sortent le chèque rentrée scolaire. Donc vous voyez, c'est assez simple pour vraiment être sûr que tout l'argent et tout le montant de cette allocation vont bien pour les besoins de l'enfant. Quand on est dans la solidarité et quand on est dans les aides, il faut s'assurer que ce sont bien ces 5 millions d'enfants qui vont bénéficier des sommes qu'on leur met à disposition. Et l'avantage également des chèques qu'on pourrait mettre comme les chèques déjeuner, c'est que si on a pas utilisé tous les chèques à la rentrée, ça peut permettre de payer la cantine au milieu d'année et de garder éventuellement ces chèques pour acheter des vêtements à l'enfant s'il grandit dans le milieu d'année. Donc au moins, c'est de l'argent sanctuarisé pour l'enfant quand il y en a besoin.
La députée MoDem, Perrine Goulet, au téléphone d'Élodie Forêt. L'allocation de rentrée scolaire a été versée à 3 millions de familles modestes début août, selon une étude de la Caisse d'allocation familiale parue en 2014 et qui a été repérée par le journal Libération. La quasi-totalité, 99% des bénéficiaires de l'allocation s'en étaient servis pour acheter des fournitures scolaires et 95% pour acheter des vêtements.
Allez, cette rentrée, alors, comment ça s'est passé?
Il y a eu l'énervement, la cohue, du stress, de l'impatience, du grand classique finalement. Des masques et du gel hydroalcoolique aussi pour la deuxième rentrée scolaire sous Covid. Et il y a aussi eu des piqûres. Dès le premier jour, le gouvernement avait annoncé des opérations de vaccination. Dans les Landes, ça n'a pas traîné. À Mont-de-Marsan, des lycéens volontaires évidemment ont été conduits dans un centre de vaccination. C'est le reportage de Renaud Biondimongé.
Ils ont 14 ou 15 ans et pour des raisons multiples n'ont pas pu ou pas voulu se faire vacciner cet été.
Je voulais le faire, sauf qu'il n'y avait pas assez de place, etc. Et j'ai pas trouvé un moment.
J'en ai pas pris le temps d'y penser, et voilà, c'est tout. J'ai juste pas pris le temps d'y réfléchir, d'y penser, et voilà.
Il y a aussi parfois la peur de la piqûre.
Le médecin t'a expliqué les effets indésirables, d'accord.
Mais Léa, 15 ans, a franchi le pas.
Allez, je pique. Oh là, tu as fait la grimace.
J'aime pas ça.
Ah, j'aime pas ça, vraiment pas.
Si elle a décidé de se faire vacciner, c'est d'abord, dit-elle,
pour protéger ma famille.
Et puis aussi parce que le pass sanitaire, les mineurs en auront besoin à partir du 30 septembre.
Il y a beaucoup de contraintes par rapport aux sorties, etc. Du coup, c'est pas super. Et je voulais pas être handicapée à propos de ça.
La vaccination, c'est aussi l'occasion de sortir de la crise qui gâche aussi la vie des jeunes depuis un an et demi, estime Ludwig, qui a 15 ans.
Enfin, c'est quelque chose quand même qui est utile et que, par exemple, certains arguments qui vont dire que dans 10 ans, peut-être qu'il y aura des conséquences. En soi, dans 10 ans, si on n'a pas fait le vaccin, il y aura aussi des conséquences. Alors, autant le faire si ça peut aider.
L'Agence régionale de santé estime que dans les Landes, plus de 80% des 12-17 ans ont déjà reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid.
Reportage France Bleu, Renaud Biondimongé. Un peu plus de 12 millions d'élèves ont donc fait leur rentrée aujourd'hui. Protocole sanitaire jaune, niveau 2. Les classes de primaire fermées au premier cas contact. En revanche, dans le secondaire, seuls les élèves non vaccinés cas contact seront contraints de suivre les cours à distance si l'un de leurs camarades se révélait positif. Une rentrée et une pensée particulière d'Emmanuel Macron à Samuel Paty, l'enseignant assassiné l'année dernière. Le chef de l'État a posté un message sur Twitter aujourd'hui qui a fait bondir d'ailleurs à droite et à l'extrême droite parce qu'Emmanuel Macron, dans la même vidéo, a brièvement montré une photo des youtubeurs McFly et Carlito. Vieille promesse, indécence et irrespect s'est indigné Marine Le Pen comme le député LR Éric Ciotti et la sénatrice LR Valérie Boyer. Jour 2 à Matignon, c'était autour de la CFTC, de la CGT et des organisations patronales d'être reçus par le Premier ministre aujourd'hui pour faire le tour des sujets chauds de la rentrée sociale. L'assurance chômage, les retraites, les difficultés de recrutement aussi, c'est le point noir pour les entreprises en ce moment. Le gouvernement leur suggère d'augmenter les salaires. Maxime Debs, vous êtes en direct de Matignon. Réponse plutôt fraîche des patrons.
Oui, même si sur le fond, ils en comprennent l'idée, hein, Dominique Métayer, président de l'UDP, qui représente les artisans et commerçants de proximité.
Nous, on est prêts, bien sûr, à l'échange par rapport à ça. Après, tout dépend de la capacité des entreprises dans cette période. On n'a pas encore fait les comptes, hein, les plus et les moins. Ce genre de décision n'est pas prise aussi que pour quelques semaines ou quelques mois. Une fois qu'elles sont entérinées, il faut les assumer sur une longue durée.
Quand Bruno Le Maire, ministre de l'économie, suggère au patron d'augmenter les salaires, l'idée a tout pour plaire à Philippe Martinez de la CGT. Pour autant, il ne s'agirait pas non plus de se défausser.
J'ai dit au Premier ministre, vous ne pouvez pas toujours renvoyer la négociation aux entreprises si vous ne faites pas un geste, augmentation du SMIC. Parlant de salaire, j'ai rappelé au Premier ministre que les fonctionnaires, depuis 20 ans, n'avaient pas vu bouger leur point d'indice.
Et pour une fois sur le sujet, CGT et MEDEF, en poussant le trait, seraient presque d'accord. Si, écoutez plutôt le patron des patrons, Geoffroy Roux de Bézieux.
L'exemple doit venir de l'État. Or, quand l'État ou les collectivités locales ou les hôpitaux font des appels d'offres pour du gardiennage, pour de la sécurité, avec des prix tirés vers le bas, il n'y a pas de marge de manœuvre pour augmenter les salaires. L'État doit balayer devant sa porte. Je serais curieux de savoir combien sont payées les femmes de ménage qui nettoient Bercy.
On appréciera la pique et d'ajouter qu'augmenter les salaires aura pour conséquence, selon lui aussi, de faire mécaniquement monter les prix. Sujet polémique donc et dossier, vous l'aurez compris, encore très loin d'être réglé.
Maxime Debs en direct de Matignon avec Alexandra Bergel. Dernier tour demain, ce sera le syndicat enseignant FSU qui sera reçu en fin de journée.
À 19h, presque 12, New York, après le film Catastrophe de la nuit dernière, est en train de revenir doucement à une vie presque normale.
Des torrents d'eau se sont déversés dans le métro. Images impressionnantes. Les vols depuis l'aéroport de Newark ont été interrompus. L'état d'urgence décrété. Le passage de l'ouragan Ida a été catastrophique et le bilan humain lourd. Plus de 13 morts dans la ville et aux alentours. Et une vie qui reprend bizarrement aujourd'hui. Loïc Loury sur place.
Quelques flaques d'eau sous un ciel limpide, difficile d'imaginer ce matin les torrents de pluie qui se sont abattus la veille au soir à New York. Andy, un habitant du Queens, n'a jamais vu ça. La quantité d'eau qui est tombée en trois quarts d'heure, les égouts n'étaient pas assez costauds. Cypress Avenue s'est transformée en rivière, plus de 20 cm d'eau dans mon sous-sol. J'ai mesuré il y a quelques minutes. Et impossible dans ce quartier de Ridgewood de trouver une seule personne dont le sous-sol n'ait pas été submergé. J'ai eu peur, dit Noelia, qui n'a découvert qu'au réveil l'ampleur des dégâts humains et matériels à l'échelle de la ville.
J'étais trop occupée avec mon propre problème avant que cela n'empire. L'eau ruisselait dans les escaliers, littéralement, jusque dans la cave. Je n'avais jamais vu ça et je vis ici depuis 25 ans.
Avec le réchauffement climatique, dit-elle, il va falloir s'y habituer, situation face à laquelle Andy fait contre mauvaise fortune bon cœur. Bien sûr, c'est arrivé une fois, ça arrivera encore et encore, on sera peut-être tranquille. 5 ans, mais ça va se reproduire. Il faut s'y habituer.
Just get used to it.
Il y a une dizaine de jours, avec le passage de l'ouragan Henri, la ville avait déjà reçu 2 mois de pluie en moins de 36 heures. New York, Loïc Loury, France Inter.
L'actualité à l'étranger nous ramène aussi en Afghanistan ce soir. Alors que les talibans tentent de former un gouvernement, des femmes ont manifesté dans une ville de l'ouest du pays pour dire que non, elles n'ont pas peur et qu'elles réclament le droit d'étudier, le droit de travailler. Elles étaient une cinquantaine à le crier dans la rue cet après-midi. Courageuses ces femmes, comme celle qu'a pu joindre Claude Guibal, Zarifa Ghaffari, 29 ans, la première femme élue maire dans le pays et qui a réussi à fuir il y a quelques jours.
Dans la voix, un mélange de sidération et d'incrédulité. Les gens de ma génération n'auraient jamais pu imaginer que les talibans reviendraient et qu'on retournerait ainsi en arrière. Obligée de fuir son pays alors que les talibans viennent de reprendre le pouvoir à Kaboul, Zarifa Ghaffari, militante, féministe et plus jeune maire d'Afghanistan, est pleine de colère contre l'abandon de la communauté internationale, États-Unis en tête, mais aussi contre l'ensemble de la classe politique afghane, dont l'inconséquence, selon elle, a mené à la destruction d'un pays et d'une génération entière aux rêves brisés. Pour elle, désormais, pas d'autre choix pour la communauté internationale que de discuter avec les talibans.
Je n'aurais jamais voulu me trouver dans cette situation. Mais est-ce qu'on a le choix? Vous avez mieux à me proposer? Il y a quelqu'un qui est prêt à les mettre hors de mon pays? Ils sont là, et pour longtemps. On ne peut pas abandonner une nation entière à cause de ceux qui la dirigent. For those who are leading them.
Zarifa Ghaffari le martèle, elle est prête à mener ce dialogue avec les talibans, accompagnée d'un message simple à la communauté internationale.
Please, je vous en prie, faites pression sur le Pakistan pour qu'il n'interfère plus dans les affaires afghanes et faites pression sur les talibans pour qu'ils garantissent aux femmes leurs droits fondamentaux.
Un message qu'elle entend répéter à tous les responsables internationaux qu'elle rencontre désormais.
Claude Guibal, votre entretien à retrouver en vidéo sur franceinter.fr. Zarifa Rafari est aujourd'hui réfugiée en Allemagne. Et puis le Qatar affirme par ailleurs discuter avec les talibans pour la réouverture de l'aéroport de Kaboul. Une équipe qatarie sur place pour évaluer les dégâts et tout remettre en état.
Et près de Bordeaux, un policier risque un an d'exclusion pour violence conjugale.
C'est ce que demande le conseil de discipline de la police et c'est rarissime. Mais c'est aussi le policier qui a enregistré la plainte de Shaïnès Daoud en mars dernier à Mérignac. Un mois et demi seulement avant qu'elle ne soit brûlée vive par son mari. Un féminicide qui a profondément choqué. Emmanuel Leclerc, vous êtes en direct de Bordeaux. Bonsoir à vous. C'est aussi, sans doute, ce qui a pesé dans la décision du conseil de discipline.
Oui, alors officiellement, le fait que ce soit le policier qui ait recueilli la plainte de Shaïnès Daoud avant qu'elle ne soit tuée par son mari n'a pas pesé sur le conseil de discipline qui s'est tenu ici à Bordeaux. Ce conseil de discipline...
Emmanuel Leclerc, en direct, difficile de Bordeaux.
Rassembler une dizaine de personnes.
Je crois que ça va pas être possible.
Face au brigadier Giraud.
Emmanuel Leclerc, on essaiera de vous rappeler un petit peu plus tard sur cette proposition du conseil de discipline d'exclure pendant un an ce policier pour violence conjugale, mais c'était aussi le policier qui avait donc enregistré la plainte d'une femme tuée par son mari un mois et demi seulement après à Mérignac, près de Bordeaux. En bref, cette nouvelle demande de remise en liberté et ce nouveau rejet pour Cédric Jubilard, placé en détention provisoire en juin dernier parce que soupçonné d'avoir tué sa femme disparue en décembre. À Calais, un CRS a été condamné à 18 mois de prison avec sursis et à 2 ans d'interdiction d'exercer pour avoir agressé un bénévole britannique pendant l'évacuation d'un camp de migrants. Le brigadier chef avait falsifié le procès-verbal pour faire passer son geste pour de la légitime défense. Et puis les Jeux paralympiques à Tokyo, de belles médailles encore aujourd'hui pour la France. L'argent pour le sprinteur Timothée Adolphe sur 100 mètres et le bronze pour le nageant Florent Marais, 100 mètres d'eau, notamment parmi les médailles du jour. Allez, on part à Venise. À la Mostra, on va parler cinéma. Et Jane Campion fait son grand retour. Elle est en lice pour un Lion d'Or avec le film qui s'appelle The Power of the Dog, un western crépusculaire d'une grande maîtrise et des paysages à couper le souffle. C'est Corinne Pellissier qui nous donne envie.
Jane Campion, pour son retour au cinéma, ne pouvait pas rêver meilleur décor. Le Montana des années 20, depuis le ranch des frères Burbanks au pied des montagnes rocheuses. Paysage sublime, plein de souffle, pour un western crépusculaire autour de personnages que tout oppose. Jesse Plemons dans le rôle de George, la tête pensante, l'homme élégant, toujours dans l'empathie. Et le fort en gueule, le violent, Phil. Benedict Cumberbatch, en terreur des saloons, nostalgique du passé et reclus dans une solitude intérieure qui le consume. La dure loi du Far West à la sauce Jane Campion, forcément singulière dans son approche des personnages, souvent délicate et remplie de désirs cachés. Seule femme à bord, Kirsten Dunst impressionne elle aussi par sa fragilité dans une ambiance souvent poisseuse, un rythme un peu lent. La réalisation, quant à elle, est sublime. La lumière, l'esthétique, le cadre, tout concourt ici à en faire un premier candidat sérieux dans la course au Lion d'Or.
Voilà, bonheur à ceux qui auront la chance de voir le film à la Mostra. Pour les autres, ce sera sur Netflix, sortie prévue le 1er décembre prochain. Vous êtes un brin nostalgique, Fabienne, un brin rétro peut-être?
Je pense qu'il faut que je réponde oui là, ouais, sinon ça va péter votre truc.
Et ça va forcément vous faire plaisir.
C'est vrai qu'on les reconnaît de loin.
Alors c'est qui?
Ils n'ont pas beaucoup bougé en 40 ans, c'est bien. Comme
ils ont les mêmes voix?
Complètement.
C'est le grand retour d'Abba?
Je ne sais pas s'ils sont habillés pareil en revanche.
Alors ça, on ne le sait pas encore. Moi, je n'ai pas vu les images, mais on entend donc le dernier titre d'Abba qui se reforme pour ce titre « I'm still facing you ». C'est le titre de cette chanson qu'on écoute, premier titre d'un nouvel album qu'on nous annonce. Et donc la magie est toujours là.
Mais la joie est en nous. Je vois bien, vous êtes comme une petite folle, Hélène. Vraiment, cachez votre joie. Et en tout cas, ça se fête. Mais non, ça se fête. Il y a déjà du public, alors qu'on les connaît à peine. Mais on sera ravis d'écouter ça.
Du groupe 40 ans après.
Ça dit des trucs quand même. Merci beaucoup, Hélène. Vous reviendrez avec l'album entier. On en parlera très longuement. On va faire une spéciale, je pense. Allez, dans un instant. C'est le téléphone sonne. Nous sommes à la veille de l'ouverture du congrès mondial pour l'Union internationale pour la conservation de la nature. On parle donc biodiversité, nature, comment la préserver, comment même limiter la catastrophe, la dégradation des écosystèmes et l'extinction des espèces. C'est au 01 45 24 7000. Bien entendu, la météo, c'est maintenant.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Élodie Calac, un temps orageux au sud, c'est le programme de demain.
Oui, du sud-ouest vers les Alpes, la Méditerranée, le ciel deviendra chaotique avec quelques averses le matin. Ça tournera à l'orage l'après-midi. Sur le Languedoc, on aura des orages parfois marqués dès le matin. Ils s'étendront du Languedoc vers les Cévennes et le Var l'après-midi. Le risque orageux, il concernera la Corse toute la journée. Des Charentes et de la Vendée vers le centre-Val de Loire et le sud de la Bourgogne jusqu'au Lyonnais d'ailleurs. Soleil et nuages au menu, quelques ondées possibles. Et puis en allant vers le nord de la Loire, là ce sera bien ensoleillé avec un petit peu plus de nuages le matin près de la Manche, mais ça ne durera pas.
Et que disent les températures, Élodie?
Alors le matin, 9 à 17 degrés, un peu comme ce matin, jusqu'à 21 autour de la Méditerranée. Et puis l'après-midi, 20 degrés à Cherbourg, 23 à Lyon, à Perpignan, 25 à Lille, Rennes, Bordeaux ou Toulouse, 26 à Nancy, Paris et Angers, 27 degrés à Mulhouse, à Nice, et on ira jusqu'à 29 à Ajaccio.
Et Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup.